Chapitre 2. Longtemps, le vieux Lazavretsky eut peine à se résoudre à pardonner à son fils. Si celui-ci était venu, 6 mois après son mariage, se jeter aux pieds de son père, peut-être eût-il obtenu sur le champ sa grâce. Il en eût été quitte pour une bonne semonce. Tout au plus aurait-il vu se lever sur lui la béquille paternelle, instrument de terreur salutaire. Mais Ivan Petrovitch vivait en pays étranger et semblait fort peu se préoccuper de son père. « Tais-toi et prends-y garde !» répétait le vieillard à sa femme chaque fois que celle-ci essayait de l'amener à la clémence. « Ce vaurien-là doit éternellement prier Dieu pour moi de ce que je n'ai point maudit. Feu mon père l'eût assommé de ses propres mains, une fois il eut fort bien fait. » Anna Pavlovna, à ces terribles paroles, faisait à la dérobée des signes de croix. Quant à la jeune femme d'Ivan Petrovitch, le vieillard ne voulait d'abord pas même entendre parler, et en réponse à une lettre de M. Pestov, dans laquelle celui-ci faisait mention de sa bru, il lui fit dire qu'il ne se connaissait pas de bru de par le monde, et que les lois interdisent formellement de donner asile aux serfs ou serves ensuite, ce dont il se faisait un devoir de le prévenir. Mais, plus tard, ayant appris la naissance d'un petit-fils, il se radoucit, fit demander sous main des nouvelles de l'accouché, et lui envoya, sans trahir son nom, un peu d'argent. Le petit Théodore n'avait pas un an encore quand Anna Petrovna tomba dans le logement malade. Quelques jours avant sa mort, ne pouvant plus bouger de son lit, elle dit à son mari, en présence de son confesseur et avec des larmes craintives au bord de ses paupières éteintes, qu'elle désirait voir sa bru, prendre congé d'elle et bénir son petit-fils. Le vieillard, affligé, la rassura aussitôt et envoya sur le champ sa voiture à sa belle-fille en l'appelant pour la première fois Malania Sergeyevna. Celle-ci arriva avec son fils et Marfa Timofievna, qui n'avait voulu à aucun prix la laisser partir seule et l'exposer à quelque offense. Demi-morte de peur, Malania Sergeyevna entra dans le cabinet de son beau-père. Une bonne la suivait, portant l'enfant dans ses bras. Son beau-père la regarda en silence. Elle s'approcha pour saisir sa main. Ses lèvres tremblantes parurent à peine y poser un baiser qu'on n'entendit point. « Ça, ma jeune anoblie de la veille, » dit-il à la fin, « bonjour, allons chez madame. » Disant cela, il se leva et se pencha vers le petit Théodore. L'enfant sourit et lui tendit ses petites mains pâlottes. Le vieillard se sentit ému. « Ah, fit-il, mon pauvre délaissé, tu gagnes la cause de ton père. Allez, je ne t'abandonnerai pas, mon chéri, va. » Malania Sergeyevna, à peine entrée dans la chambre d'Anna Pavlovna, se mit à genoux sur le seuil de la porte. La bourrante lui fit signe d'approcher de son lit, l'embrassa, bénit son fils, puis tournant vers son mari un visage amaigri par de cruelles souffrances, elle essaya de lui parler. « Bon, je sais bien ce que tu veux me demander, » prononça Piotr Andreevitch. « Ne te chagrine pas, elle restera près de moi, et pour elle, je pardonnerai à mon fils. » Anna Pavlovna fit un suprême effort, baisa la main de son mari. Le même soir, elle avait cessé d'exister. Piotr Andreevitch tint parole. Il informa son fils qu'en mémoire des derniers moments de sa mère, et par pitié pour le petit Théodore, il lui rendait son affection et qu'il garderait dorénavant Melanaïa Sergeïevna dans sa maison. On mit deux chambres d'entresol à la disposition de la jeune femme. Son beau-père la présenta à ses connaissances les plus marquantes, au brigadier Borgne Skourechine et à sa femme. Il lui fit présent de deux serves et d'un petit domestique pour faire ses commissions. Marfa Timoyevna prit congé d'elle, et de prime abord, elle avait pris Glafira en horreur et dans le courant de la journée, c'était trois fois querellé avec elle. Bien pénible et bien fausse fut au commencement la nouvelle position de la jeune femme, mais bientôt elle s'habitua à son beau-père et se résigna. Lui aussi s'accoutuma à sa bru, il la prit même en affection, quoique jamais ou peu s'en faut il ne lui parla. Dans sa bienveillance même perçait une teinte de dédain. Maria Sergeïevna avait le plus à souffrir de sa belle-sœur. Celle-ci, du vivant même de sa mère, avait réussi petit à petit à s'emparer de la direction de la maison. À commencer par son père, tout le monde lui était soumis. Sans son autorisation, on ne pouvait disposer d'un morceau de sucre. Elle eût plutôt consenti à mourir que de partager sa puissance avec une autre maîtresse de maison. Et quelle maîtresse de maison, grand Dieu! Le mariage de son frère l'avait plus exaspéré que le père lui-même. Elle avait résolu de donner une bonne leçon à la parvenue. Du moment de son installation dans la maison, Malania Reskeyevna devint son esclave. Et comment aurait-elle pu lutter contre l'opiniâtreté et contre l'orgueil de Glafira, elle, cette pauvre femme sans défense, toujours troublée, toujours craintive et d'une santé si faible? Il ne se passait pas de jour que Glafira ne lui rappela son origine et ne la loi de rester à sa place. Malania Sergeïevna eut fait bon marché de ses récriminations et de ses éloges, quelques amères qu'il lui semblassent, mais on lui avait enlevé son fils et elle en avait conçu un morne désespoir. Sous prétexte qu'elle n'était pas capable de s'occuper de son éducation, on ne lui permettait presque plus de le voir. Glafira se chargea de tout, l'enfant passa entièrement en son pouvoir. Malania Sergeïevna, en proie à un violent chagrin, suppliait dans chacune de ses lettres son mari de revenir au plus vite. Piotr Andreevitch lui-même désirait revoir son fils. Mais celui-ci, très prodigue de lettres, se bornait à remercier son père de ses bontés pour sa femme, pour l'argent qu'il lui envoyait, promettait d'arriver bientôt, et ne venait pas. L'année 1812 le ramena enfin dans sa patrie. Le père et le fils, en se revoyant après 6 ans de séparation, tombèrent dans les bras l'un de l'autre sans prononcer un seul mot qui fit allusion à leur discorde passé. On avait bien d'autres choses en tête. Toute la Russie se levait en masse contre l'ennemi, et tous deux sentirent que du sang russe coulait dans leurs veines. Piotr Andreevitch équipa à ses frères un régiment de volontaires. Mais la guerre se termina, le danger s'éloigna, et de plus belle, Ivan Petrovitch se sentit pris d'ennui. Ce monde lointain avec lequel il s'était familiarisé, où il se sentait chez lui, l'attirait. Sa femme était impuissante à le retenir, elle comptait pour si peu de choses dans son existence. L'espoir même que Malania Sergeyevna avait mis en lui ne s'était pas réalisé. Son mari avait trouvé, comme tout le monde, qu'il était bien plus convenable de confier à Glafira l'éducation du jeune garçon. La pauvre femme d'Ivan Petrovitch ne put supporter ce coup. Elle ne put supporter non plus une seconde séparation et s'éteignit en quelques jours, sans murmurer. Durant toute sa vie, elle n'avait su résister à personne. Elle n'essaya même pas de combattre son mal. Elle ne pouvait plus parler. Les ombres de la nuit s'étendaient sur son visage, que ses traits exprimaient encore inaltérable patience et la constante douceur d'une résignation infinie. Elle regardait Glafira avec une muette soumission. De même qu'Anna Pavlovna, sur son lit de mort, avait baisé la main de Piotr Andreevitch, elle posa ses lèvres sur la main de Glafira en lui recommandant à elle, Glafira, son fils unique. C'est ainsi que cet être si doux et si bon termina son rôle sur la terre. Enlevé violemment, Dieu sait pourquoi, du sol qu'il avait vu naître, et jeté un instant après, pareil à un arbrisseau arraché les racines au soleil, elle se flétrit, elle disparut sans laisser de trace, la pauvre femme, et personne ne la pleura. Elle fut regrettée quelque temps par son beau-père et par ses femmes de chambre. Il manquait au vieillard le doux visage de sa bru et sa présence silencieuse. Adieu, adieu pour jamais, murmura-t-il en saluant la défunte une dernière fois, et il pleurait en jetant une poignée de terre sur son cercueil. Lui-même, ne survécut pas longtemps à sa bru. 5 ans après, durant l'hiver de 1819, il mourut tranquillement à Moscou, où il était venu s'établir avec Glafira et son petit-fils. Il voulut être enterré à côté de sa femme et de sa petite Malanaïa. Ivan Petrovitch se trouvait alors à Paris pour son plaisir. Il avait quitté le service peu de temps après 1815. Ayant appris la mort de son père, il se décida à revenir en Russie. Il fallait prendre la direction de sa fortune. D'ailleurs, le petit Théodore, à ce que mandait sa tante Glafira, entrait dans sa 13e année, et le moment était venu de s'occuper sérieusement de son éducation. Ivan Petrovitch était anglomane quand il revint en Russie. Ses cheveux coupés rares, son jabot empesé, sa longue redingote couleur pois avec une multitude de petits collets superposés, l'expression aigre de ses traits, quelque chose de tranchant et d'indifférent à la fois dans sa manière d'être, sa prononciation sifflante, son rire soudain et saccadé, l'absence de sourire, une conversation exclusivement politique ou politico-économique, sa passion pour le roast beef saignant et pour le vin de Porto, tout en lui sentait la Grande-Bretagne d'une lieue. Il semblait tout entier pénétré de son esprit. Mais, chose étrange, s'étant transformé en anglomane, Ivan Petrovitch était devenu en même temps patriote. Du moins, se disait-il patriote, quoiqu'il connût fort mal la Russie, quoiqu'il n'eût aucune des habitudes russes et qu'il parlât le russe d'une façon étrange. Dans la conversation, son langage, lourd et décoloré, se hérissait de barbarisme. Mais à peine venait-on à parler de quelques sujets sérieux, qu'Ivan Petrovitch répondait soudain en phrases telles que celle-ci, « Se signaler par de nouvelles preuves de zèle individuelle. Oh, cela n'est point en accord direct avec la nature, les circonstances, etc. » Ivan Petrovitch avait apporté avec lui plusieurs projets manuscrits, sur les améliorations qu'il voulait faire subir au gouvernement. Il était fort mécontent de tout ce qu'il voyait. L'absence de système échauffait surtout sa bile. À la première entrevue qu'il eut avec sa sœur, il lui annonça qu'il était décidé à introduire des réformes radicales dans l'administration de ses terres, que tout chez lui marcherait d'après un nouveau plan. Glafira Petrovna ne lui répondit rien, mais elle serra les dents. « Et moi, pensait-elle, que deviendrai-je dans tout cela ?» Cependant, une fois arrivée à la campagne avec son frère et son neveu, elle ne tarda pas à se rassurer. Dans l'intérieur de la maison, quelques changements eurent lieu, en effet. Les parasites et les fainéants furent immédiatement exilés. Au nombre des victimes se trouvèrent deux vieilles femmes, dont l'une aveugle, l'autre paralytique, et un vieux major contemporain de Souvarov, qu'on ne nourrissait que de pain noir et de lentilles, à cause de son extraordinaire voracité. Il y eut en ordre, en outre, de ne plus recevoir les visiteurs d'autrefois. Ils furent tous remplacés par un voisin éloigné, un certain baron blond et scrofuleux, parfaitement bien élevé et fort bête. De nouveaux meubles arrivèrent de Moscou. Des crachoirs, des cordons de sonnette, des lavabos firent leur partition dans les appartements. On servit le déjeuner d'une nouvelle façon. Des vins étrangers remplacèrent les liqueurs et les eaux de vie du terroir. Les domestiques furent habillés de nouvelles livrées. On ajouta à l'écusson armorié de la famille la devise « In recto virtus ». Mais au fond, la puissance de Glafira n'en fut pas diminuée. Toutes les emplettes, toutes les dépenses relevaient d'elle comme par le passé. Un valet de chambre alsacien, amené de France par Ivan Pietrovitch, avait tenté de regimber contre la suprême autorité de Glafira. Il perdit sa place, malgré la protection de son maître. Quant à ce qui concerne l'administration des terres, Glafira Petrovna s'en était toujours occupée. Tout resta dans le plus complet statu quo, malgré l'intervention manifestée plus d'une fois par Ivan Pietrovitch de faire circuler une vie nouvelle dans ce chaos. En maint endroit, les redevances devinrent plus fortes, la corvée plus lourde. Il fut interdit aux paysans de s'adresser directement à Ivan Pietrovitch et ce fut tout. Le patriote commençait à considérer ses concitoyens avec mépris. Le système d'Ivan Pietrovitch ne fut vraiment mis en vigueur que relativement au petit Théodore. Son éducation fut soumise à une réforme complète. Son père s'en occupa exclusivement. Nous l'avons déjà dit, le petit Théodore avait été entièrement confié à sa tante jusqu'au retour d'Ivan Pietrovitch en Russie. Il n'avait pas 8 ans quand sa mère mourut. Il ne la voyait pas tous les jours et s'était attaché à elle avec passion. Le souvenir de son triste et doux visage, de son regard mélancolique, de ses caresses furtives, s'était à jamais gravé dans son cœur. Mais il ne comprenait pas bien nettement la position de sa mère dans la maison. Il sentait qu'entre elle et lui s'élevait une barrière qu'elle n'osait pas, qu'elle ne pouvait pas franchir. Il avait peur de son père, et son père, de son côté, ne le caressait jamais. Son grand-père lui passait de temps à autre la main dans les cheveux et lui permettait de la baiser, mais il le nommait « petit sauvageon » et il le tenait pour un petit imbécile. À la mort de sa mère, sa tante s'en empara définitivement. Théodore la craignait. Ses yeux vifs et perçants, sa voix forte l'épouvantait. Il n'osait pas proférer une syllabe devant elle. Lui arrivait-il de faire un mouvement sur sa chaise? Elle criait aussitôt « Où vas-tu? Reste tranquille !» Le dimanche, après la messe, on lui permettait de jouer. Cela voulait dire qu'on lui donnait un gros bouquin-livre mystérieux de la composition d'un certain Maximovitch Abramovitch qui avait pour titre « Symboles et emblèmes ». Dans ce titre se trouvait une foule de dessins incompréhensibles avec un texte non moins obscur en 5 langues. Un cupido, nu et bouffi, jouait un grand rôle dans ces dessins. Au bas de l'un d'eux, qui avait pour titre « Le safran et l'arc-en-ciel », on lisait cette devise « L'effet de celui-ci est plus grand ». Sous un autre, qui représentait une cigogne traversant les airs, un bouquet de violettes dans son bec, il était dit « Ils te sont tous connus ». Un cupido près d'un ours qui léchait son ourson exprimait « Petit à petit ». Théodore examinait ses dessins. Il les connaissait tous, jusque dans leurs moindres détails. Quelques-uns, toujours les mêmes, le faisaient longtemps réfléchir, éveillaient sa jeune imagination. Il ne connaissait pas d'autres distractions. Quand vint le moment d'apprendre la musique et les langues étrangères, Glafira Petrovna prit, moyennant un pauvre salaire, une vieille fille, suédoise d'origine, qui parlait, tant bien que mal, le français et l'allemand, jouait un peu de piano et, par-dessus le marché, salait admirablement les concombres. Et c'est dans la société de cette institutrice, de sa tante et d'une vieille servante nommée Vassilievna, que Théodore passa 4 longues années. Il arrivait parfois que le pauvre enfant se nichait dans un coin avec son livre à devises sur les genoux et restait là des heures entières dans la petite chambre basse, embaumée par les géraniums, éclairée par une pauvre chandelle. Le griot faisait entendre son cri monotone, comme si lui aussi souffrait de l'ennui, et le balancier de la petite pendule frappait régulièrement les secondes. Une souris cachée dans l'ombre rongeait et grattait la tapisserie, et les 3 vieilles filles, semblables aux 3 parcs, agitaient vivement et en silence les aiguilles de leur tricot. L'ombre de leurs bras courait ou tremblait sur le mur, dans la demi-teinte, et d'étranges visions traversaient le cerveau de l'enfant. Personne n'aurait vu en lui un être intéressant. Il était pâle, mais gros, mal bâti et gauche, un vrai moujik, au dire de Glafira Petrovna. Sa pâleur eût bien vite disparu si on lui avait fait plus souvent respirer le grand air. Il apprenait passablement, quoiqu'il eût souvent des accès de paresse. Jamais il ne pleurait, mais en revanche, il manifestait parfois un entêtement sauvage, et dans ces moments-là, personne ne pouvait en venir à bout. Théodore n'aimait personne de tous ceux qui l'entouraient. Malheur à celui dont le cœur n'a pas aimé dès l'enfance. Ivan Petrovitch trouva son fils tel que nous venons de le dépeindre, et sans perdre de temps, il se mit à lui appliquer son système. « Avant tout, disait-il à Glafira Petrovna, je veux en faire un homme. » Un homme, et pas seulement un homme, et un spartiate. Et pour réaliser ce beau projet, Ivan Petrovitch commença par habiller son fils à la mode écossaise. On vit ce petit bonhomme de 12 ans se promener les jambes nues, une plume de coq à son béret. La vieille fille suédoise fut remplacée par un jeune Suisse passé maître dans la gymnastique. La musique fut abandonnée à jamais comme occupation indigne d'un homme. Les sciences naturelles, le droit international, les mathématiques, la menuiserie, pour se conformer aux préceptes de Jean-Jacques Rousseau, et le blason, pour entretenir chez lui les sentiments chevaleresques. Telles furent les études auxquelles devait se livrer le futur spartiate. On le réveillait à 4 heures du matin, on lui versait de l'eau glacée sur le corps, on le faisait courir à la corde autour d'un poteau. Il ne mangeait qu'une fois par jour, d'un seul plat, montait à cheval et tirait de l'arbalète. À l'exemple de son père, Il s'exerçait à la force de caractère quand l'occasion s'en présentait, et tous les soirs, il faisait le compte-rendu de la journée et de ses impressions personnelles. Ivan Pietrovitch, de son côté, lui écrivait des instructions en français dans lesquelles il l'appelait « mon fil » et lui disait « vous ». Théodore tutoyait son père en sa présence, quand il lui adressait la parole en russe. Ce système brouilla définitivement les idées du jeune garçon et le rendit presque imbécile. Mais ce nouveau genre de vie eut du moins une influence heureuse sur sa santé. Théodore débuta par une fièvre chaude, il s'en remit vite et devint bientôt un gaillard vigoureux. Son père en était fier et l'appelait, dans son étrange langage, « le fils de la nature, mon œuvre, ma création ». Quand Théodore eut atteint sa 16e année, son père se fit un devoir de lui inspirer à l'avance le mépris de la femme, et le jeune Spartiate, avec son âme craintive et le premier duvet sur la lèvre, plein de sève, de force et de passion, s'étudiait déjà à paraître indifférent, froid et brutal. Mais le temps marchait à grands pas. Ivan Pietrovitch passait la majeure partie de l'année à Lavriki. C'était sa principale propriété héréditaire, et durant l'hiver allait seul à Moscou, où il habitait à l'hôtel. Il fréquentait assidûment le club, pérorait, exposait ses plans dans les salons, et se posait plus que jamais en anglomane, en mécontent, en homme politique. Survint l'année 1825 et les maux qui l'accompagnèrent. Les plus proches voisins, les amis d'Ivan Petrovitch, furent en proie à de cruelles tribulations. Ivan Petrovitch se hâta de se retirer à la campagne et s'enferma dans son domaine. Il passa ainsi une année, puis tout à coup il sentit ses forces l'abandonner. Sa santé avait disparu. Dès lors, le libre penseur se mit à fréquenter les églises, à faire chanter les tédéum. L'anglomane d'autrefois s'adonnait maintenant au bain russe, dînait à 2 heures, se couchait à 9 et s'endormait au bavardage de son maître d'hôtel. L'homme politique avait brûlé tous ses plans, toute sa correspondance. Il tremblait en présence du gouverneur et faisait des avances à l'Ispravnik. L'homme à la volonté de fer se plaignait et gémissait quand il avait un bouton ou quand on lui servait son potage froid. Glafira Petrovna s'empara de nouveau du gouvernail et par l'escalier de service, les moujiks ainsi que les différentes autorités du village recommencèrent leur pèlerinage vers la vieille sorcière. C'était le nom que lui avaient donné ses domestiques. Théodore fut vivement frappé du brusque changement qui s'était opéré chez son père. Il entrait alors dans sa 19e année et commençait à réfléchir, à secouer enfin le joug de cette main qui avait si longtemps pesé sur lui. Il avait même, avant cette époque, remarqué une certaine inconséquence entre les discours et les actes paternels, entre ses théories si larges, si libérales, et son despotisme étroit. Mais il ne s'attendait pas à une si soudaine transformation. Le vieillard égoïste se montra nu tout d'un coup. Le jeune Lavretsky se préparait à partir pour Moscou afin de s'y préparer au cours de l'université, quand un nouveau malheur, plus inattendu que les autres, vint frapper Ivan Petrovitch. Il devint aveugle du jour au lendemain et sans aucun espoir de guérison. Il n'avait pas grande foi dans l'habileté des médecins russes et tâcha d'obtenir la permission de passer la frontière. Sa demande fut rejetée. Alors, il prit son fils avec lui et pendant 3 ans, Il explora la Russie, allant d'un médecin à l'autre, voyageant de ville en ville, et réduisant, par son impatience et sa faiblesse de caractère, son fils, ses médecins et ses gens au désespoir. Quand il revint enfin à Lavriky, ce n'était plus qu'un enfant pleurnicheur et capricieux. Une série de tristes et pénibles journées commença alors. Chacun eut à souffrir des manies du vieillard. Ivan Petrovitch s'apaisait seulement pendant son dîner. Jamais il n'avait mangé avec autant de voracité. Le reste du temps, il ne laissait de repos ni à lui ni aux autres. Il priait Dieu, murmurait contre le sort, médisait de la politique de son système, de tout ce qui faisait naguère son orgueil, et l'objet de ses croyances, de tout ce qu'il avait donné en exemple à son fils. Il répétait sans cesse qu'il ne croyait à rien, et puis recommençait ses prières. Il ne supportait pas un instant de solitude, et il exigeait qu'on lui tînt sans cesse compagnie, la nuit comme le jour, auprès de son fauteuil. Qu'on lui fit, pour le distraire, des récits qu'il interrompait à chaque instant par des exclamations de cette espèce. « Quel conte faites-vous là? Quelle sottise !» Glafira Pietrovna était plus que personne sa victime. Il ne pouvait décidément s'en passer, et elle se soumit jusqu'à la fin à tous les caprices du malade, quoiqu'elle n'osa pas toujours lui répondre d'abord, pour ne point trahir par le son de sa voix la colère qui l'étouffait. Il languit ainsi 2 ans encore, et mourut dans les premiers jours de mai, au moment où l'on venait de le transporter sur le balcon pour le placer au soleil. « Glafira, Glacha, du bouillon, vite du bouillon, vieille folle !» murmura sa langue embarrassée, et, sans achever le dernier mot, il se tut pour toujours. Glafira Pietrovna, qui venait de s'emparer de la tasse de bouillon qu'apportait le maître d'hôtel, s'arrêta court, regarda fixement son frère, fit lentement un grand signe de croix et s'éloigna en silence. Théodore, qui se trouvait à 2 pas, ne dit rien non plus. Il s'appuya sur la balustrade du balcon et resta longtemps immobile, plongeant ses regards dans le jardin, tout embaumé, tout verdoyant, tout resplendissant des rayons dorés d'un soleil de printemps. Il avait alors 23 ans, la vie souffrait à présent devant lui. Le jeune Lavretsky, après avoir enterré son père, confia à l'éternel, à l'immuable Glafira Pietrovna, l'administration de ses propriétés et la surveillance de ses intendants, et partit pour Moscou, où l'appelait à un sentiment mal défini mais irrésistible. Il se rendait compte des défauts de son éducation et résolut de rattraper autant que faire se pourrait le temps perdu. Durant les 5 dernières années, il avait beaucoup lu et vu un peu le monde. Bien des pensées se heurtaient dans sa tête. Plus d'un professeur eût envié peut-être quelques-unes de ses connaissances. Cependant, il ignorait la plupart des éléments familiers à tout écolier. Lavretsky se sentait un être à part, ce qui lui ôtait toute liberté. L'anglomane avait rendu un bien mauvais service à son fils. L'éducation capricieuse qu'avait reçue le jeune homme portait ses fruits. Longtemps, il s'était résigné à la tyrannie paternelle, et quand enfin il eut compris son père, le mal était fait, les habitudes étaient prises, enracinées. Il ne savait pas vivre avec les hommes, et à 23 ans, le cœur plein de troubles et d'une ardente soif d'aimer, il n'avait pas encore osé lever les yeux sur une femme. Il aurait fallu, avec son esprit clair et sain mais pesant, avec sa tendance à l'entêtement, à la contemplation, à la paresse, qu'il fût jeté de bonne heure dans le tourbillon de la vie, et au contraire, On l'avait circonscrit dans un isolement factice. Quand le cercle magique fut rompu, il resta cloué à la même place, immobile et comme replié sur lui-même. À son âge, il paraissait étrange qu'il endossât l'habit d'étudiant, mais il ne craignait pas la raillerie. Son éducation spartiate avait eu cela de bon qu'elle l'avait rendu indifférent au camp, dira-t-on, mais il revêtit l'uniforme sans sourciller. Ce fut du côté des sciences physiques et mathématiques qu'il dirigea ses études. Silencieux, robuste et barbu, il produisait une impression singulière sur ses camarades. Comment ces jeunes gens se seraient-ils doutés que sous l'enveloppe grave de cet homme qui suivait si assidûment les cours de l'université, se cachait le cœur d'un enfant? Pour eux, il n'était qu'un pédant original avec lequel ils ne se souciaient guère de lier connaissance, et lui, de son côté, les évitait. Durant les deux premières années qu'il passa à l'université, Lavretsky ne fit société qu'avec un seul étudiant qui lui donnait des leçons de latin. Cet étudiant, du nom de Mikhailovitch, grand enthousiaste et poète, se prit pour Lavretsky d'une vive affection et devint bientôt la cause fortuite d'un grand changement dans son existence. À cette époque, le célèbre acteur Motchalov était à l'apogée de sa gloire et Lavretsky ne perdait aucune de ses représentations. Un soir, qu'il était au spectacle, il vit une jeune fille dans une loge du premier rang. Bien que toute femme qui passait près de sa sombre personne le fît habituellement tressaillir, jamais il n'avait ressenti une pareille impression. La jeune fille était immobile, appuyée sur le velours de sa loge. La vie et la jeunesse animaient les traits gracieux de son visage un peu brun. L'intelligence pétillait dans ses beaux yeux, dont les regards doux et attentifs s'abritaient sous la frange de leurs longues cils. Elle se révélait dans le piquant sourire de ses lèvres expressives, dans la pose même de sa tête, de ses bras et de son cou. Elle avait une toilette charmante. Auprès d'elle était assise une femme d'environ 45 ans, décolletée, la tête coiffée d'une toque noire, souriant niaisement et d'un air préoccupé. Au fond de la loge s'épanouissait, d'un air majestueux, un homme enveloppé dans une vaste redingote et dans sa haute cravate. L'expression de ses petits yeux était à la fois insinuante et soupçonneuse. Il avait la moustache et les favoris teints, un énorme front insignifiant et des joues chiffonnées. Tout trahissait en lui un général en retraite. Lavretsky ne détachait pas son regard de la jeune fille quand soudain la porte de la loge s'ouvrit pour laisser entrer Mikhailovitch. L'apparition de cet homme, le seul pour ainsi dire qu'il connut à Moscou, auprès de la jeune fille qui venait d'absorber si vivement son attention, parut à Lavretsky un fait étrange et significatif. En continuant de regarder la loge, il remarqua que toutes les personnes qui s'y trouvaient semblaient traiter Mikhailovitch en vieille connaissance. Ce qui se passait sur la scène cessa d'intéresser Lavretsky. Motchalov lui-même, fort en train ce soir-là, ne produisit pas sur lui son habituelle impression. À un endroit très pathétique de la pièce, Lavretsky se tourna involontairement vers la jeune fille. Elle s'était penchée en avant, son visage était en feu. Sous l'influence de ce regard tendu du jeune homme, les yeux de la jeune fille, fixés sur la scène, s'abaissèrent lentement vers lui. Toute la nuit, il vit ses yeux. La digue, si habilement construite, s'était enfin rompue. Oh, il tremblait, il suffoquait, et le lendemain, il alla trouver Michalevitch. Il apprit de son ami que cette belle fille s'appelait Varvara Pavlovna Korobin, que les deux personnes assises dans la loge étaient son père et sa mère, et que Michalevitch avait noué connaissance avec eux depuis un an environ, durant le séjour qu'il avait fait comme instituteur chez le comte N, leur voisin de campagne. Le poète parlait de Varvara Pavlovna avec de grands éloges. Ah, mon ami, s'écria-t-il avec un accent saccadé et chantant qui lui était propre, oh, cette jeune fille est un être étonnant. Elle a le feu sacré. C'est une nature d'artiste dans toute la force du terme. Et puis elle est si bonne. Les questions multipliées de Lavretsky firent remarquer à son ami l'impression que Varvara Pavlovna avait produite sur son esprit. Il lui proposa de le présenter, ajoutant qu'il était l'ami de la maison, que le général n'était pas un homme orgueilleux, et que la vieille mère n'était bonne qu'à manger du foin. Lavretsky rougit, balbutia quelque chose d'inintelligible et s'enfuit. Il lutta contre sa timidité pendant 5 jours. Le 6e jour, le jeune Spartiate endossa un habit neuf et se remit entre les mains de Michalevitch. Celui-ci, étant pour ainsi dire de la maison, se borna à donner un coup de main à sa coiffure et tous deux se rendirent chez les Korobin. Le père de Varvara Pavlovna, Pavel Pietrovitch Korobin, était un major général en retraite. Il avait passé sa vie à Saint-Pétersbourg au service et avait eu dans sa jeunesse la réputation d'un bon officier et d'un habile danseur. N'ayant point de fortune, il dut se résigner longtemps aux fonctions d'aide de camp près de 2 ou 3 généraux de peu de renom et finit par épouser la fille de l'un d'eux, qui lui apporta en dot environ 20 000 roubles. Il avait étudié, jusque dans leurs plus intimes secrets, les combinaisons transcendantes des manœuvres militaires, et après 25 ans de cet intelligent métier, il était devenu général. Mais mis à la tête d'un régiment, il aurait pu se reposer et arrondir doucement sa fortune, comme il en avait conçu depuis longtemps l'espoir. Mais il voulut aller trop vite. Il avait imaginé un nouveau système, sûr et prompt, de faire prospérer à son profit l'argent de la couronne. Ce moyen, à ce qu'il paraît, est excellent, mais l'inventeur ne sut pas être généreux à propos. Il fut dénoncé, et ce ne fut pas seulement une affaire désagréable. Il en résulta une très vilaine histoire. Le général en sortit, tant bien que mal, et non sans peine. Sa carrière militaire était perdue. On l'invita à quitter le service. Pendant 2 ans, il continua d'habiter Saint-Pétersbourg, dans l'attente d'une place civile bien lucrative. La place n'arriva pas. Sa fille venait de quitter l'institut. Les dépenses augmentaient chaque jour. Le général résolut bien à regret d'adopter la vie à bon marché de Moscou. Il loua dans la vieille rue des Écuries une maison petite et basse, décorée d'un écusson armorié d'une toise de haut sur le toit, et commença la vie de général en retraite en Russie avec un revenu de 2750 roubles d'argent par an. Moscou est une ville éminemment hospitalière. Le premier venu y trouve bon accueil. Comment un général n'y aurait-il pas été bien reçu? La grosse et martiale figure de Pavel Petrovitch surgit bientôt dans les premiers salons de la capitale. Son front chauve, les rares mèches de ses cheveux teints, son cordon de sainte-Anne sale et flétrie, sa cravatelle de corbeau, tout cela fut bientôt connu de ces jeunes gens pâles qui flânent tristement entre les tables de jeu pendant la danse. Pavel Pietrovitch sut parfaitement se poser dans la société. Il parlait peu, en nasillant légèrement, par ancienne habitude militaire, excepté devant ses supérieurs. Il jouait aux cartes avec prudence, mangeait modérément à la maison, et comme six chez les autres. Il n'y a presque rien à dire de sa femme. Elle se nommait Calliope Karlovna. Son œil gauche pleurait toujours, en vertu de quoi Calliope Karlovna, étant d'origine allemande, se croyait une femme sensible. Elle avait constamment l'air inquiet et craintif, portait des robes de velours collantes, des toques et des bracelets d'or mats et soufflés. Leur fille unique, Varvara Pavlovna, avait 18 ans quand elle avait quitté l'institut de... où elle passait pour l'élève la plus intelligente, sinon la plus belle, et la musicienne la plus accomplie. On lui avait même octroyé la distinction du chiffre. Elle n'avait pas encore 19 ans quand Lavretsky la vit pour la première fois. Les jambes du Spartiate tremblaient sous lui quand il fut présenté par son ami dans le triste salon de Korobine. Ce premier sentiment de crainte se dissipa bientôt. La bonhomie naturelle des Russes s'augmentait chez le général de ses manières d'être, pleines de cette obséquiosité particulière aux gens un peu tarés. Sa femme, c'est à peine si on la remarquait. Quant à la jeune fille, elle était affable avec tant d'assurance que chacun devant elle se trouvait à son aise et pour ainsi dire chez soi. Toute sa gracieuse personne, ses yeux souriants, ses épaules arrondies, ses mains d'un rose mat, sa démarche nonchalante, le son languissant de sa voix, tout cela révélait un charme encore pudique, difficile à exprimer, mais qui répandait certains parfums de volupté et faisait naître des sentiments qui ne ressemblaient en rien à ceux de la timidité. Lavretsky parla du théâtre et de la représentation de la veille. Elle dirigea aussitôt la conversation sur le talent de Motchalov et, sans s'en tenir aux exclamations et aux soupirs, elle formula quelques jugements justes et qui marquaient un esprit féminin très subtil. Michalevitch parla musique. Elle, sans affectation, se mit au piano et joua quelques mazurkas de Chopin qui commençaient alors à être à la mode. Vint l'heure du dîner. Lavretsky voulut se retirer, mais on le retint. À table, son hôte le régala d'un excellent Lafitte que le domestique du général courut chercher chez le pré. Lavretsky rentra chez lui fort tard dans la soirée. Il resta longtemps assis sans se déshabiller, la main posée sur les yeux, immobile, ravi. Il lui semblait que de ce jour seulement, il commençait à comprendre ce qui fait la valeur de la vie. Tous ses plans, toutes ses résolutions, tout ce vide et ce néant d'autrefois disparurent soudain. Tout son être se consacra dans un sentiment unique, le désir, un désir effréné de bonheur, de possession, d'amour, du doux amour d'une femme. À compter de ce jour, il fit de fréquentes visites au Korobine. 6 mois après, il formula sa déclaration à Varvara Pavlovna et demanda sa main. Sa requête fut bien accueillie. Le général, c'était depuis longtemps, si ce n'était même derrière la première visite de Lavretsky, enquis auprès de son ami du nombre de ses âmes. Barbe elle-même, tout en conservant sa sérénité et son égalité d'humeur, durant tout le temps des assiduités du jeune homme, et peut-être au moment où il ouvrait son cœur, Barbe n'avait pas un instant perdu de vue la fortune du prétendant. « Meine Tochter macht eine schöne Partie. Ma fille fait un beau mariage, se dit Calliope Karlovna. Et elle s'acheta un nouveau béret. La demande du jeune homme ne fut pas agréée sans qu'on y mît certaines conditions. En premier lieu, Lavretsky dut quitter l'université. Qui donc épousa l'étudiant? Et d'ailleurs, n'était-ce pas une pensée saugrenue que de suivre les cours à 26 ans comme un écolier quand on était riche et propriétaire? En second lieu, Varvara Pavlovna prit elle-même la peine de commander le trousseau et d'acheter les cadeaux de noces. Elle avait un grand sens pratique, beaucoup de goût, un vif amour du confort et une parfaite habileté à se le ménager. Lavretsky fut surtout émerveillé de cette habileté quand, deux ou trois jours après son mariage, il partit pour Lavriky avec sa jeune femme dans une voiture de louage élégante et commode dont elle avait fait l'acquisition. Comme tout y avait été prévu, les poches de la voiture étaient pleines de beaux nécessaires, de cafetières et de mille autres jolis meubles. Et comme Varvara Pavlovna préparait avec grâce le déjeuner du matin, Lavretsky n'était d'ailleurs pas alors en train d'observer. Il nageait dans le bonheur et s'y plongeait comme un enfant. N'était-il pas innocent comme un enfant, ce jeune Alcide? Ce n'était pas en vain que toute la personne de la jeune femme répandait autour d'elle ce charme indescriptible. Ce n'était pas en vain qu'elle semblait recéler tant de trésors de tendresse. Elle tint plus que ses promesses. À son arrivée à Lavriky, au cœur de l'été, elle trouva la maison triste et malpropre, les serviteurs vieux et ridicules, mais elle se garde bien d'en souffler mot à son mari. Si elle avait eu l'intention de s'établir à Lavriky, elle y eût tout changé, en commençant naturellement par la maison. Mais l'idée de s'enfermer dans ce petit coin obscur ne lui vint pas un instant à l'esprit. Elle l'habitait comme on habite une tente, se résignant à tous les inconvénients de sa demeure passagère et trouvant moyen d'en rire. Marfa Timofievna vint voir son élève d'autrefois. Elle plut beaucoup à Varvara Pavlovna, mais celle-ci ne plut guère à la vieille dame. La jeune maîtresse de maison ne réussit pas mieux avec Glafira Petrovna. Elle l'eût volontiers laissé en repos, mais le général, son père, avait envie de mettre la main dans les affaires de son gendre. « Il n'y a rien de malséant, disait-il, même pour un général, à administrer la fortune à si proche parent. » Il nous est permis de supposer que Pavel Pietrovitch n'eût pas dédaigné de s'occuper des propriétés d'un homme qui lui aurait été complètement étranger s'il en eût trouvé l'occasion. Varvara Pavlovna construisit son plan d'attaque d'une manière fort habile. Sans trop s'avancer et toute plongée en apparence dans les délices de la lune de miel et les douceurs de la vie champêtre, tout occupée de musique et de lecture, elle mena les choses à ce point que Glafira Petrovna, un beau matin, se précipita comme une folle dans la chambre de son neveu, jeta le trousseau de ses clés sur une table et lui annonça qu'elle n'avait plus la force de s'occuper du ménage et qu'elle allait quitter la maison. Lavretsky, dûment préparé à cette scène, consentit tout de suite au départ de sa tante. Glafira Petrovna ne s'attendait point à pareille réponse. « C'est bon, » dit-elle, et son regard s'assombrit. « Je vois que je suis le trop, » continua-t-elle. « Je sais qui me chasse d'ici, de mon nid paternel. Mais souviens-toi de mes paroles, mon neveu. Tu ne feras non plus ton nid nulle part. Tu erras d'un endroit à l'autre toute ta vie. C'est là ma bénédiction. Elle se retira ce même jour dans sa petite propriété, et au bout d'une semaine, on vit arriver le général Colombine, qui prit aussitôt les rênes du gouvernement en se donnant des airs mélancoliques dans le regard et dans les allures. Au mois de septembre, Barbe emmena son mari à Pétersbourg. Elle y passa deux hivers. L'été, elle habitait à Zaskoré-Sielo, dans un délicieux appartement meublé avec élégance et recherche. Le jeune ménage fit beaucoup de connaissances dans la bonne et même dans la plus haute société de Pétersbourg. Il sortait beaucoup, recevait volontiers et donnait de charmantes soirées musicales et dansantes. Barbe attirait les visiteurs comme le feu attire les papillons. Cette vie de distraction continuelle n'était pas tout à fait du goût de Lavretsky. Sa femme l'engageait à prendre du service, mais lui, soit respect des sentiments paternels, soit conviction personnelle, ne voulait pas servir et restait à Pétersbourg pour complaire à sa femme. Cependant, il s'aperçut bientôt que personne ne l'empêchait de s'isoler, que ce n'était pas en vain qu'on lui avait arrangé le cabinet le plus confortable de tout Pétersbourg. Il remarqua que sa femme, toujours pleine d'attention pour lui, était prête à lui faciliter ses heures de retraite et d'études, et dès lors, tout alla à merveille. Il se remit de plus belle à son éducation inachevée, à ce qu'il croyait, et il recommença ses lettres et se prit à étudier l'anglais. Étrange spectacle que celui de cet homme robuste aux larges épaules, toujours courbé sur son bureau, avec son visage rond, coloré et couvert d'une barbe épaisse, ensevelie dans les papiers ou dans les livres. Il passait toutes ses matinées au travail. Il mangeait bien. Sa femme était une maîtresse de maison accomplie. Et le soir, il entrait dans ce monde enchanté, parfumé, brillant, tout peuplé de figures jeunes et souriantes, ce monde dont sa femme était le centre, le pivot. Barbe donna un fils à son mari, et l'enfant ne vécut que quelques mois. Il mourut au printemps, et pendant l'été, Lavretsky, de l'avis des médecins, emmena sa femme au zoo, à l'étranger. Les distractions lui étaient nécessaires après le chagrin qu'elle venait d'éprouver, et l'état de sa santé réclamait d'ailleurs un climat plus doux. Le jeune couple passa l'été et l'automne en Allemagne et en Suisse. L'hiver les vit à Paris, comme on devait s'y attendre. Varvara Pavlovna ne tarda pas à se remettre entièrement, et elle l'embellit beaucoup. À Paris, elle sut faire son nid aussi vite, aussi habilement qu'à Pétersbourg. Elle avait un intérieur très coquet, dans l'une des rues les plus tranquilles et plus fashionables de la capitale. Elle fit faire à son mari une robe de chambre comme il n'en avait jamais encore porté. Elle prit à son service une femme de chambre élégante, une excellente cuisinière et un laquais des plus alertes, se donna une charmante voiture, un délicieux piano. Une semaine s'était à peine écoulée que déjà elle traversait la rue, portait son châle, ouvrait son ombrelle et mettait ses gants comme une vraie Parisienne. Elle ne tarda pas non plus à se former un cercle de connaissances. D'abord, il ne se composa guère que de Russes. Ensuite, on y vit paraître des Français, aimables et polis, des célibataires, gens aux belles manières et portant des noms sonores. Ils parlaient tous avec animation et volubilité, saluaient avec grâce et faisaient les doux yeux, montraient leurs dents blanches entre des lèvres roses, comme ils savaient sourire. Chacun d'eux amenait ses amis, et bientôt la belle madame de Lavretsky fut connue de la chaussée d'Antin à la rue de Lille. À cette époque, ces événements se passaient en 1836. On n'avait pas encore vu se répandre cette race de journalistes et de chroniqueurs qui fourmille partout à présent. Cependant, on remarquait dans le salon de Varvara Pavlovna un certain monsieur Édouard, d'un extérieur peu avenant, d'une réputation détestable, servile et insolent à la fois, comme tous les duellistes et les hommes souffletés. Ce monsieur Édouard déplaisait beaucoup à Varvara Pavlovna, mais elle le recevait, car il écrivait dans quelques journaux et parlait continuellement d'elle, la nommant tantôt Madame de Lavretsky, tantôt Madame de 3 étoiles. Cette grande dame russe et distinguée qui demeure rue de Paix. Et il racontait à tout l'univers, c'est-à-dire à quelques centaines d'abonnés, qui ne s'intéressaient guère à Madame de L. Tadjanski, combien cette dame, une vraie Française par l'esprit, les Français ne connaissent pas de plus grand éloge, était aimable et charmante, qu'elle possédait en musique un talent hors ligne et valsait à ravir. Varvara Pavlovna valsait en effet de manière à entraîner tous les cœurs dans les ondulations de sa robe vaporeuse. En un mot, il répandait sa renommée dans le monde, ce qui est toujours assez flatteur. Mademoiselle Mars avait déjà quitté la scène, sur laquelle n'avait point encore paru Mademoiselle Rachel. Néanmoins, Barbe allait fort souvent au spectacle. La musique italienne l'enchantait. Les ruines d'Odry la faisaient rire. Elle bâillait de la façon la plus convenable à la comédie française et pleurait en voyant Madame Dorval dans les drames ultra-romantiques. Mais ce qui avait encore plus de prix à ses yeux, Liszt avait joué 2 fois chez elle et avait été d'une amabilité, d'une simplicité charmante. Vers la fin de cet hiver, passé si agréablement, Varvara Pavlovna avait même été présentée à la cour. Fyodor Ivanovitch, de son côté, ne s'ennuyait pas. Cependant, sa vie lui paraissait quelquefois bien lourde, lourde par sa frivolité même. Il lisait les journaux, suivait les cours de la Sorbonne et du Collège de France, écoutait les discussions des chambres et avait entrepris la traduction d'un ouvrage scientifique fort connu sur les irrigations. « Bon, je ne perds pas mon temps, se disait-il. Tout cela est utile. Ben, il faut absolument que je retourne en Russie pour l'hiver prochain et que je me mette à l'œuvre. » Savait-il bien précisément lui-même en quoi consistait cette œuvre, et s'il pourrait de sitôt retourner en Russie. En attendant, il devait partir avec sa femme pour Baden-Baden. Un événement inattendu vint renverser tous ses projets.